Bonjour, bonjour, bienvenue au Bar des Sciences. Je peux vous servir quelque chose? Vous connaissez pas le Bar des Sciences? Bah écoutez, on choisit un thème, et vous voyez les personnes là-bas? Ce sont des spécialistes, des chercheurs, des médecins, et ils sont là pour répondre à vos questions. Regardez, ça commence. Vous n'avez qu'à rester et vous donnerez votre avis après.
Donc, bienvenue ce soir dans ce Bar des Sciences nomade au Carré Sainte-Anne. Alors, non seulement voilà, nous devenons nomades, on s'exporte au Carré Sainte-Anne. Ensuite, on explore aussi des interfaces art-sciences pour essayer un petit peu. Donc, on vous a trouvé une brochette de deux scientifiques et d'un artiste, qui est l'artiste qui a réalisé toutes ces œuvres qu'il y a autour de vous. Et je pense qu'ensemble, on va pouvoir avoir une discussion assez intéressante autour de l'interactivité. Je vais vous présenter juste brièvement nos trois intervenants pour que vous sachiez un petit peu plus le type de questions auxquelles ils sont amenés à pouvoir vous répondre. Donc j'ai oublié de me présenter. Donc moi, je suis Thierry Brassac, je suis médiateur scientifique à l'Université Montpellier 2. Et ce bar des sciences a été mis en place en partenariat avec le pôle culture de l'Université Montpellier 2. Donc c'est vraiment la culture scientifique et la culture tout court, entre guillemets, qui travaillent ensemble sur ce projet-là, en fait. Donc nous avons, on va commencer par le maître des lieux, Yann, qui est ici présent, qui donc est un... Alors dans l'ordre, hein, il l'a dit tout à l'heure à table, il est musicien, graphiste, et maintenant il est en train de devenir programmateur. Parce que, donc malheureusement, vous n'avez pas pu voir encore, hein, je ne sais pas si il y en a certains d'entre vous qui ont vu l'expo, mais si vous ne l'avez pas vu en activité, je vous encourage vraiment à revenir jeter un coup d'œil dans les jours prochains. Ça vaut vraiment le détour. Donc il travaille un petit peu à toutes ces expérimentations et dont l'interactivité est vraiment au cœur de son travail. Donc merci à lui d'avoir bien voulu jouer le jeu, de participer et d'accepter d'être encadré par deux scientifiques autour de lui. On a ensuite Benoît Charlot, ici présent, donc qui est chercheur CNRS, qui travaille à l'Université Montpellier 2. Il travaille dans un laboratoire qui fait des recherches sur les microcapteurs. Il travaille donc sur des accéléromètres, sur des capteurs tactiles, des capteurs empreintes digitales, tout ce genre de choses. Et aussi sur des microcapteurs qui peuvent être, dont une des applications, c'est de mesurer par exemple de la température au niveau, sur des cellules en fait, dans un premier temps. Donc ils travaillent sur des interfaces en fait avec des capteurs qui peuvent capter de la température ou des phénomènes, des processus biologiques microscopiques. Voilà. Ensuite nous avons Philippe Freys qui est juste à côté. Donc Philippe Freys, lui, il est dans le département de robotique du LIRM. Donc le LIRM, c'est une unité CNRS Université Montpellier 2. C'est ça, j'oublie personne, on est ça. Donc c'est un gros labo de robotique sur Montpellier et il travaille sur les interfaces homme-robot. Donc sur tout un tas de choses, il a plein d'histoires de robots à raconter, il connaît plein de trucs en fait, tous les trucs qui vont arriver et tout, souvent il est souvent au courant. Et il travaille aussi sur augmenter la vitesse et la précision des robots dans les chaînes de montage, etc. Et entre autres, si je me rappelle bien, ils avaient fait déjà une expérimentation art-science où ils avaient un robot qui avait l'accélération la plus rapide du monde. Et donc je vais laisser la parole juste à Benoît pour 5-10 minutes de... Voilà, juste une petite introduction globale de la thématique de la soirée. Et puis après, moi je passerai parmi vous pour qu'on essaye de discuter, d'interagir. Ils vont essayer de répondre à vos questions, vous pouvez avoir des suggestions, etc. Voilà, ok.
Bonsoir à tous. Bon, alors à moi la lourde tâche d'introduire cette soirée, de commencer. Alors le sujet, c'est l'interactivité. Alors, la première chose que j'ai faite, je suis allé regarder dans Wikipédia pour essayer de définir ce que c'est que l'interactivité. J'ai trouvé une phrase très très longue. Qui dit en substance, c'est l'interaction, l'action de personnes qui vont recevoir des informations et qui vont modifier leur comportement en fonction des impressions qu'ils vont ressentir. Donc l'interactivité, on la trouve maintenant de plus en plus partout. Donc c'est principalement une grosse partie de ce que chose qu'on appelle l'interaction homme-machine. La fameuse interaction homme-machine qui fait que des fois on s'arrache les cheveux avec des appareils électroniques. Ces interactions qui évoluent énormément. Donc on est passé de modèles où la machine dominait, où on devait se plier à la machine, à des choses plus proches de l'interaction humain-humain. On arrive maintenant à des objets tactiles, des objets qui sont capables de nous comprendre, de nous regarder, de comprendre nos émotions, nos mouvements de figure par exemple, et qui vont faciliter l'échange d'informations entre un homme et une machine. Donc vous avez tous des téléphones portables, ils sont de plus en plus faciles à s'en servir, ils sont tactiles maintenant, on arrive à les toucher. Et la question c'est, qu'est-ce qui va se passer après? Quel est le futur de l'interactivité et de la relation homme-machine? Donc ça c'est la première chose, donc on va parler de l'interaction homme-machine. Deuxième chose, c'est l'interaction humain-humain via le filtre que pourrait être une machine. C'est-à-dire, quand on se parle actuellement, on a une relation de 1 à plusieurs ou de 1 à 1. Mais il y a aussi maintenant l'interaction 1 à 1 via des réseaux informatiques, via des emails, via des réseaux sociaux. Il y a des choses comme ça et qui modifient nos relations, notre type d'interaction. Donc qu'est-ce que ça peut introduire dans nos sociétés, dans nos modes de communication? Qu'est-ce que cette augmentation de pouvoir de communication va effectuer? Donc on l'a vu récemment avec, par exemple, avec les révolutions dans les pays arabes, l'importance qu'ont eu, par exemple, Internet, la communication comme ça. Donc la deuxième partie de la réflexion, ça va être ça. Est-ce que l'interactivité augmentée va nous modifier, va modifier la communication entre les hommes? Et puis enfin, il y a la partie artistique. Donc là, on a un très bel exemple avec cette exposition où il y a un énorme travail sur un objet artistique et l'interaction qu'on peut avoir avec lui. On n'est plus du tout spectateur, mais on est acteur, là, quand on joue avec les instruments fabriqués par Yann. Eh ben, on entre entièrement dans son univers graphique. On crée de la musique, alors même moi qui n'ai absolument aucun don naturellement pour la musique, je suis capable d'aller faire des choses intéressantes. Et avec son univers propre, et il y a là un très bel exemple d'interactivité qui, je pense, est amené à se développer. Donc voilà pour l'introduction. Bon, alors on peut peut-être commencer par poser des questions aux gens ici. Pardon, des sciences à l'envers. qu'est-ce que vous imagineriez en prospective que serait l'interaction avec un ordinateur, par exemple, ou un téléphone portable dans le futur? Imaginez, vous êtes dans 20 ans, vous avez un objet dans la main, est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous imaginez lui parler à votre ordinateur, comme ça a été imaginé dans les films de prospective anciens, où on voyait les ordinateurs parler avant, hein, dans les films de science-fiction? Maintenant, ils ne parlent plus du tout.
Le film auquel vous faites peut-être référence, c'est celui de Kubrick avec...
Oui, notamment, ouais. Il y en a d'autres.
En fait, les questions que je me pose par rapport au sujet, c'est justement au déterminisme technologique. Enfin voilà, un point qu'on pourrait peut-être aborder. Et l'autre, c'est quand vous parliez d'interactivité, bon, vous aviez l'air de dire que c'était quelque chose de nouveau. Enfin, en soi, c'est pas nouveau, c'est le concept sur lequel on réfléchit, qui est nouveau, puisque l'interactivité, c'est vraiment pas un truc nouveau. Enfin, bon, voilà, c'est une réflexion que je me suis faite. Et d'autre part, par rapport à ce que vous disiez, Facebook, tout ça, en fait, c'est des cristallisations. C'est pas nouveau, là, non plus. Disons que ça cristallise des choses qui sont en place et que c'est des moyens qui permettent la diffusion et qui... là aussi, ça rentre... Et bon, voilà, c'est les réflexions que je m'étais faites, et voilà. Et autour aussi un peu du déterminisme technologique, et, enfin, voilà. Ben bon, c'est un peu confus, oui, oui, enfin, c'est des trucs qui me sont venus comme ça.
Moi, je vais prendre la parole et puis répondre un petit peu
Philippe Freys,
à ce que vous dites, enfin, les questions que vous soulevez derrière ça. L'interaction, en fait, on parle homme-machine, homme-robot ou des choses comme ça. Effectivement, ce n'est pas nouveau l'interaction, puisque déjà l'interaction entre l'homme et l'homme, ça existe depuis que l'homme existe. Effectivement, mais aujourd'hui on est obligé, on essaie de mieux comprendre cette relation à travers les études qui ont déjà eu lieu depuis de nombreuses années en psychologie cognitive, etc., ou même en neurosciences, pour justement pouvoir adapter l'interaction entre l'homme et la machine, entre l'homme et le robot, de manière la plus naturelle qui soit, pour que justement les personnes qui souhaitent utiliser la nouvelle technologie, qui souhaitent utiliser des choses très complexes, n'aient pas besoin d'être formés spécifiquement et puissent interagir justement naturellement et de manière intuitive. On le voit apparaître aujourd'hui avec les nouveaux systèmes d'exploitation et les nouvelles interfaces qui existent. On essaie d'être, de mettre en place des interactions naturelles. Donc aujourd'hui, à travers l'exposition qui est ici, et peut-être Yann pourra compléter, mais on voit des interactions assez naturelles pour créer de la musique, uniquement par des mouvements, des mains, ou des choses comme ça, qui sont assez intéressantes. Et dans le futur, je pense qu'on va aller vers ces interactions naturelles, c'est-à-dire des interactions déterminer l'intention d'une personne à partir de ses gestes, de sa voix, de son expression, en fait, de l'expression de son visage, pour lui répondre, tout simplement.
En fait, je trouve pas ça si naturel que ça, ces interactions. Je pense que ça développe une certaine forme de langage. Par exemple, justement, le fait de passer les mains autour de la Madone, c'est tout un nouveau langage qui va se créer, on va interagir. Et du coup, par exemple, si on parle à notre machine, il faudra faire attention qu'on s'adresse bien à elle. Donc créer plutôt un nouveau langage, une forme de nouveau langage pour s'adresser qu'à elle et pas...
Ça demande, donc moi c'est Yann, concepteur des machines exposées. Donc je suis l'artiste, donc je peux me tromper, j'ai des jokers si les questions sont un peu trop compliquées, mais celle-ci je vais pouvoir peut-être y répondre. En fait, c'est ce langage dont tu parles, ça demande à une machine, on a besoin de lui parler de manière très précise. C'est-à-dire que elle peut se tromper si on n'est pas assez précis. Comme quand on fait du code, il faut vraiment tout dire, il faut être très précis. Donc effectivement, il faut adapter son langage en fonction de ce qu'elle peut comprendre et ce qu'elle est capable de comprendre. On a fait des expériences, nous, sur scène avec Stéphane, donc le batteur du groupe, très bon batteur, qui utilisait des capteurs. Et quand il utilisait ses capteurs, on avait l'impression qu'il était ivre-mort. Donc il a dû réadapter toute sa gestuelle pour que le programme et la réaction des capteurs fonctionnent bien et puissent restituer un minimum son niveau de jeu en batterie. Donc effectivement, la Madone, si on ne connaît pas bien la manière de lui parler, on a l'impression que elle ne comprend pas, ou parce que voilà, on ne lui parle pas comme il faut. Un peu comme quand on utilisait une souris au tout début, la première fois qu'on a utilisé une souris. Hein, il y a toujours des gens qui ne savent pas utiliser une souris. Pourtant, pour la plupart des gens maintenant, c'est devenu extrêmement naturel. Donc le comportement, à mon avis, s'habitue. Voilà, faut juste trouver des codes, qu'ils soient communs au plus grand nombre, et ça devient au bout d'un moment aussi naturel que de parler.
En fait, il y a deux types de langage, justement. Il évoquait un langage informatique qui est complexe et qui est nouveau et qui doit être appris. Et puis ce que j'appelle un langage intuitif ou naturel, c'est que justement pour jouer de la musique, effectivement sur la Madone, on va juste bouger les bras, les mains, et en fait on apprend extrêmement vite, en quelques secondes. Ici dans la salle, tout le monde aura appris à jouer de la musique avec la Madone, d'accord, très rapidement. Donc c'est en ce sens là que je parlais de langage naturel intuitif, c'est que si on peut amener les interfaces aujourd'hui à réaliser des actions uniquement à partir de mouvements des mains, d'une expression de visage ou d'une parole, on aura fait un grand pas vers justement une interface intuitive et naturelle, comme on peut s'exprimer entre nous par une gestuelle qui peut être apprise mais très rapidement, sans avoir à suivre de longues heures d'apprentissage avec un nouveau langage. Pour moi, ce sont des langages qui existent plus ou moins, et qu'on doit juste adapter.
J'ai une question et une réflexion. C'est une question pour Yann. En fait, vous êtes musicien et vous êtes en même temps le concepteur de ces machines. Donc quand vous êtes musicien, il y a une interaction avec le public. Avec les machines, c'est une autre forme d'interaction, assez différente, enfin, d'après ce que je peux en comprendre. Est-ce que pour vous, c'est une continuité ou alors ça marque une rupture, ces deux formes d'interaction? Et ensuite, la réflexion, c'était par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai l'impression que la robotique ou l'interaction aujourd'hui se veut justement naturelle, c'est-à-dire que la machine disparaît. Alors que dans ce que vous présentez, au contraire, je trouve que la machine est là, est très présente, et ça marque aussi une distance par rapport à la machine, de par son étrangeté.
Pour la première question, oui, l'interaction entre le public et un groupe, et ce qui se passe dans l'exposition, c'est pour moi totalement différent. Moi, je fais pas réellement de la recherche scientifique, je sais pas, but médical ni industriel, c'est vraiment pour donner vie, sans ma présence, à des objets sonores, à de la musique ou à des images. La première fois que j'ai fait une ligne de code très simple d'un rond qui suivait une souris, ce mouvement, voilà, aussi organique soit-il, il peut être très rigide, il peut être très organique en fonction de l'algorithme qu'on utilise, c'est donner vie à quelque chose qui est un rond formé de pixels. Mais le mouvement va créer du sens. Et depuis que je suis étudiant, étant donné que j'utilise beaucoup l'informatique, j'entends beaucoup les gens, cette bataille entre l'analogique et l'informatique, donc les artisans, ceux qui font à la main et ceux qui font avec l'ordinateur, et toujours montrer du doigt le travail informatique en disant qu'il est froid, où il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sensible. Donc depuis des années, mon travail avec un ordinateur, c'est justement d'essayer de trouver comment rendre les choses plus sensibles par le mouvement, par un ensemble d'images, de sons. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'une œuvre puisse exister, être vivante, sans la présence de son auteur. Sur scène, on défend son album, on le vit, on le présente aux gens, tandis que là, on laisse avoir et entendre sans être sur place, et c'est aux gens de s'approprier, de faire l'effort, de marcher, de se creuser les méninges pour trouver une logique, ou de passer à travers l'œuvre parce que ben, ça ne les touche pas. Mais je trouve ça fascinant qu'une œuvre puisse être vivante et réagir en fonction de la personne qui va la manipuler. Donc l'exposition permet au moins d'ouvrir pour le groupe ces portes-là, ce qu'on ne peut pas réellement exploiter sur scène. La deuxième question...
C'était une remarque sur la façon dont peut-être la robotique ou l'informatique cherche à rendre la machine finalement invisible de par l'interaction, une interaction naturelle, alors que dans le travail que vous présentez, j'ai l'impression au contraire que la machine, elle est là, on la voit, et qu'il y a une forme de distance et d'étrangeté.
Ça dépend ce qu'on appelle la machine, parce que pour moi la machine ça va être justement tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui va être maquillé par le bois, le laiton et l'imaginaire que véhicule l'objet. J'ai cherché à cacher toute technologie justement pour rendre au final, comme quand on fait un tour de magie, on ne donne pas, j'ai rien à cacher, mais ça crée un sentiment de curiosité chez la personne qui manipule, qui rajoute beaucoup de magie au fait d'avoir une réaction sans savoir comment ça marche. Donc ce que j'appelle la machine, donc le côté technologique, électronique, est vraiment caché derrière le bois. Par contre, l'aspect, l'esthétique est effectivement très très présent et très travaillé, justement pour toujours défendre le côté sensible et poétique, c'est ce que j'essaie de faire, de l'objet. Donc j'appellerai pas ça la machine, j'appellerai ça les mécaniques poétiques plus que la machine. Je sais pas si je suis très clair.
Oui.
Sur l'idée de langage très naturel dont on parle depuis tout à l'heure par rapport à l'interactivité aux nouvelles technologies, juste une remarque, c'est quand même un langage qui nous est imposé, qui est extrêmement codifié, uniformisé pour finalement des consommateurs, on va dire, parce que c'est l'industrie qui a le moyen d'amener jusqu'au bout ces nouvelles technologies et cette nouvelle forme de langage. Et je voulais savoir si, dans son dialogue avec les chercheurs, Yann avait essayé d'aller le plus possible vers du détournement. Justement, ce qui me semble intéressant, c'est le regard de l'artiste par rapport à ces nouvelles formes de langage. Et je précisais qu'elles étaient extrêmement codifiées. À mon avis, justement, c'est le regard de l'artiste qui peut éventuellement sortir de ces codes-là pour trouver un langage qui soit peut-être un petit peu plus original et marginal de ce qu'on nous propose que, par exemple, simplement le fait de déplacer sa souris, on a une flèche qui se déplace sur l'écran, ou l'utilisation de l'iPhone, où on est tous en train d'envoyer nos photos de droite à gauche, quoi.
Je reprécise que je fais pas de la recherche, donc...
Oui, mais justement, dans ton dialogue, est-ce que toi, tu t'es retrouvé face à des chercheurs qui avaient déjà des formes de dialogue imposées, on va dire? Est-ce que les formes d'interaction étaient déjà imposées? Est-ce que toi, tu les emmenais peut-être au-delà de ces limites de langage imposées pour aller vers du détournement?
Je ne sais pas si dans leur domaine de compétences, je les ai fait repousser leurs limites, je ne pense pas. Disons qu'on a détourné par exemple les flacons, on a détourné l'utilisation des RFID, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de bien faire marcher les RFID, on a essayé de trouver un moyen de ne plus les faire marcher, trouver un moment pour parasiter le signal, ce qu'on ne fait habituellement pas, puisqu'on cherche plus à tirer vers le haut et à bien faire fonctionner ce type de capteur qu'à les empêcher de fonctionner. Donc on a plus,
C'est un bon exemple.
Voilà, essayer de parasiter la communication entre un tag RFID et son antenne principale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le RFID, je ne vais pas me lancer dans une définition parce que je n'y arriverai pas, mais c'est les flacons, voilà, le principe d'enlever un bouchon et de pouvoir savoir que le bouchon a été enlevé.
C'est ce qu'il y a sur les produits, les CD par exemple. Vous avez des petites étiquettes qui sont marquées, donc ça c'est la RFID, si vous sortez sans payer ça sonne. Voilà, donc ça c'est une illustration de la RFID.
Beaucoup moins poétique que
tout à fait.
Ce que vous pouvez trouver juste là. Et y aurait-il une autre question dans la salle? Oui. Monsieur, on me dit monsieur. Oui.
Oui, je m'interrogeais dans le rapport homme-machine sur la production de langage. Et ça vaut autant pour l'artiste que pour le scientifique. Qu'est-ce qui domine aujourd'hui? C'est une production de langage verbal plutôt ou corporel? Parce que les machines qu'il y a ici, elles semblent être plus physiques. Enfin, il y a un rapport plus physique à la machine que verbal ou autre. On a notamment dans le conflit un petit peu analogique numérique dont tu parlais... accuser beaucoup la musique de créer à partir de quelque chose d'absolument pas physique, quoi, c'est-à-dire la souris et pas un instrument, la batterie, etc. Est-ce que l'avenir est plutôt au corporel, c'est-à-dire un langage corporel ou verbal, enfin comment vous le... Voilà.
Je pense que... L'avenir, enfin, actuellement, ce qui se développe au niveau interface homme-machine, c'est clairement la gestuelle et pas du tout le langage. Comme on dit tout à l'heure, les téléphones, l'interaction par la voix est en train de complètement disparaître. Même tous les logiciels qu'on vendait pour pouvoir dicter automatiquement un ordinateur, déjà, ça marche pas super bien et c'est en chute libre complète. Alors que là, il y a tout cet aspect tactile qui est apparu clairement avec les iPhones et iPad, hein, qui va être amené à se développer via les consoles de jeux aussi, les Wii, les Kinect, là, qui sont utilisés aussi par nos, qui vont être utilisés par les roboticiens. Donc là, je pense qu'on on s'oriente vers quelque chose de très de gestuel, donc par le toucher, mais qui va être après. Qui va se passer toucher. On va sûrement dialoguer avec nos ordinateurs, avec nos machines, uniquement par des gestes. Avant, peut-être, d'arriver à quelque chose d'encore plus direct, qui est l'interface cerveau-machine. Quelque chose qui existe déjà actuellement dans les laboratoires. On est capable d'aller lire une intention de mouvement, par exemple, en se branchant directement dans le cerveau. Donc la connexion neurone-machine existe déjà. Est-ce qu'un jour elle arrivera dans la vie de tous les jours? Ça, c'est, on ne sait pas.
On arrive à faire quoi déjà, dans l'état actuel des choses, en branchant un ordinateur sur son cerveau, on arrive à faire quoi?
Donc actuellement, l'interface neuronale existe. On sait mesurer l'activité électrique d'un neurone, un potentiel d'action, dans des neurones en culture, par exemple. Mais on sait également brancher, donc ça s'appelle le BCI, Brain Computer Interface. On retire le dessus du crâne et on plante des électrodes dans le cerveau. Et on est capable, c'est le professeur Nicolelis et Kennedy et d'autres, qui ont été capables de, avec à peu près entre 50 et 200 électrodes, de mesurer, de décoder une intention de mouvement de manière vectorielle dans le cerveau. Et on sait donc, quand vous bougez votre bras, on sait le lire dans le cerveau. Donc on sait commander un bras robotique. Donc simplement en faisant le mouvement ou en ayant l'intention de faire le mouvement. Ces recherches sont orientées vers les malades, les paraplégiques, les gens qui n'ont plus ces fonctions de commande dans un but thérapeutique. Commander des muscles et éventuellement les gens qui sont complètement paralysés, commander un pointeur de souris par la pensée. Donc ça, c'est des choses qui existent. Ça se fait dans les laboratoires, sur des animaux, sur des humains paralytiques. Mais bon, c'est quand même pour l'instant très lourd au niveau chirurgical, puisqu'on doit implanter dans le cerveau. Mais les technologies avancent. Et ce qui se fait, par exemple, en électroencéphalogramme, on a trop d'informations. On a des milliards de neurones qui cliquettent tous en même temps. On ne sait pas décoder l'information. Mais ça progresse et on va un jour arriver peut-être à directement pouvoir lire des informations dans un cerveau. Donc on pourra, à partir de là, commander une machine ou même peut-être rétroagir sur un cerveau. Là, donc effectivement, il y a beaucoup de questions d'éthique qui vont se poser à ce moment-là et de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles possibilités. Donc on y est déjà, hein, ça existe déjà. On sait lire une intention de mouvement actuellement. On ne sait pas encore la mémoire, des choses plus complexes. Mais un mouvement d'un bras, on sait tout à fait le faire.
Okay. Il y a Philippe qui voulait...
Je vais juste compléter. Donc des choses qui fonctionnent. Bon, déjà l'interaction, peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est la perception aussi. La perception donc, des capteurs pour détecter justement un mouvement, une action, un son, enfin tout ce qu'on veut. Et concernant les interfaces cerveau, il y a d'autres choses qui existent aussi, c'est détecter l'activité musculaire, l'activité électrique au niveau musculaire. Donc aujourd'hui, on peut, pour des personnes amputées, détecter l'activité électrique musculaire de muscles, par exemple de l'épaule, pour déclencher le mouvement d'une prothèse au niveau de la main, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent, parce qu'effectivement, le cerveau aujourd'hui et les interfaces cerveau sont extrêmement délicates à utiliser, et notamment à cause de la structure même de notre cerveau. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs qui font que il y a l'intention de faire le mouvement, il y a le moment où on fait le mouvement, ça produit la même activité, mais il y a aussi le moment où on voit ce mouvement se faire par une autre personne, ça déclenche aussi la même activité cérébrale. C'est de cette façon-là que l'on se reconnaît dans la glace d'ailleurs, grâce aux neurones miroirs. Donc c'est très très complexe et peut-être dans quelques années on pourra les utiliser, mais je pense pas, ça sera pas pour demain.
C'était, je partais sur totalement autre chose, enfin pas totalement autre chose, puis c'était quand même sur l'interactivité, vous inquiétez pas. C'était, on parlait de l'interactivité qui mettait, s'il y a un petit moment, mais j'ai du mal à formuler mon truc, de l'interactivité qui mettait une distance entre l'homme et la machine, et je trouvais justement que pour, je pensais à cette œuvre qui a tout au fond à gauche. Moi, c'est l'interactivité qui a fait que je suis resté scotché très longtemps dessus et que ce langage, voilà, il m'a attiré et je suis resté un moment dessus. J'en suis allé à me dire, bon, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre quand même. Et c'était vraiment très intéressant. C'était un langage qui était très accessible, je trouvais. Et j'étais très amateur pour utiliser cet outil. Et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, en concert, d'utiliser ces œuvres-là qui sont en fait des instruments?
C'est une question qui revient souvent. Ils n'ont pas été conçus au final pour être des instruments de musique, mais plus des objets sonores. dans la mesure où j'utilise beaucoup l'aléatoire et qu'on ne maîtrise pas grand-chose de ce qu'on va jouer. On maîtrise vraiment, à mon avis, que 10% de ce qui se passe. Donc c'est très difficile de jouer avec d'autres personnes, ou ça demande aux autres de suivre énormément, parce qu'il n'y a plus de tempo. C'est très difficile quand on donne, quand on crée quelque chose et qu'on le donne à utiliser à quelqu'un qui n'est pas forcément musicien, qui ne sait pas forcément l'utiliser, qui n'a pas forcément, on ne sait pas son âge, c'est très difficile d'obtenir un résultat. Donc du coup, je suis obligé de beaucoup filtrer, c'est-à-dire de bien resserrer mes scénarios pour qu'un enfant puisse l'utiliser, un adulte, et que le résultat soit un minimum, je ne vais pas dire harmonieux, mais écoutable. Sinon, dans un espace comme ça, avec 10 installations, ça devient vraiment très très vite très chaotique, le bruit. Donc les scénarios, moi je ne me pose pas la question de savoir si les gens vont y arriver ou pas. Je pars d'une idée, je ne fais pas de la recherche, je cherche pas des nouvelles interfaces pour rendre la vie plus facile ou pour aider les gens à faire je ne sais quoi. Je cherche vraiment à créer un tout cohérent avec une interface pas originale, mais qui va être autre chose, à part pour deux installations, que appuyer sur une touche et entendre un son. Parce que bon, au final, il y en a plein des objets comme ça. Donc du coup, je me retrouve à faire des scénarios qui sont un peu déroutants pour les gens qui les appréhendent, parce qu'effectivement, il n'y a pas de mode d'emploi et qu'il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire l'objet avec les cordes. Ben oui, faut trouver, faut chercher la logique. Mais voilà, je pars du principe que le spectateur doit aussi faire un effort pour entrer dans l'objet qui a été créé. J'aime bien que l'artiste qui a fait son effort et propose un travail, donne un travail à voir, j'aime bien que ça aille dans les deux sens, que l'auditeur, le spectateur, que ce soit en matière musicale, dans les images ou dans l'exposition, il ait aussi son effort à faire. Et ça ne me dérange pas du tout que des gens ne fassent pas l'effort et abandonnent au bout de 10 secondes parce qu'ils ne comprennent pas ou n'ont pas envie de comprendre et restent hermétiques à l'objet.
Ça, j'imagine que quand on est créateur d'objets aussi interactifs que ceux-là, on aime bien traîner pour regarder un peu les utilisations que les gens font de vos objets. Est-ce qu'il y a des utilisations qu'ils ont complètement surprises, qui étaient inattendues? Et est-ce que justement, de voir les gens qui interagissent, ça vous donne des idées pour la suite de votre travail, en fait?
Ça surprend toujours parce que, curieusement, quand on se projette, on s'imagine comment les gens vont utiliser les machines, on a peu de scénarios par rapport à la réalité de ce qui se passe. Et en général, personne n'utilise la machine comme on l'a prévu, ou les gens trouvent des utilisations qu'on n'a même pas imaginées une seconde. Et par exemple, je sais pas, faire toucher les barreaux, au lieu de toucher les barreaux, forcer les barreaux à se toucher entre eux, ou les tordre comme une guitare. C'est un peu effrayant des fois de regarder les gens s'approprier les machines, parce que forcément, de par leur esthétique, elles sont assez fragiles et malheureusement tout le monde n'est pas très respectueux. C'est rare de faire une exposition où on a le droit de tout toucher, où il faut tout toucher, tout manipuler, et donc ça demande aux gens d'être un minimum respectueux pour que l'exposition dure au moins jusqu'à la fin de son temps d'exposition. Mais je suis très souvent effrayé plus que émerveillé devant la réaction des gens. Vous avez assuré? Elles sont assurées.
Obligatoire. Non, effectivement, les comportements humains, d'autant plus quand vous avez des enfants ou voire beaucoup d'enfants en même temps, c'est des choses qui sont c'est de l'ordre du chaos assez. Je pense que tous les concepteurs d'expo en sont conscients, en fait. Y aurait-il d'autres réactions, commentaires, questionnements?
Oui, ce que j'ai entendu de l'interactivité jusque-là, c'est une interactivité un peu à sens unique. C'est-à-dire que les roboticiens, vous commandez des robots, et on espère que le robot va faire ce qu'on lui a demandé. L'interaction avec un ordinateur, on espère que l'ordinateur va faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et il y a un dialogue un peu à sens unique dans ce sens-là. J'ai l'impression que pour certaines réalisations artistiques, c'est un peu la même chose. Bon, au lieu de souffler dans un saxophone ou de jouer du piano, je vais avoir d'autres interactions, mais la machine ne me dit rien. Et pourtant, je pense à des expériences qui ont été faites à l'IRCAM ou des réalisations de l'IRCAM. Je pense par exemple à un programme qui s'appelle le Continuateur, où un improvisateur joue un morceau de musique sur un piano, et puis il s'arrête de jouer et ça continue. Ça continue selon le style qu'il a joué. Puis après il va reprendre, etc. C'est-à-dire que non seulement je commande ma machine, mais la machine va changer son comportement au fur et à mesure que j'interagis avec elle. Et donc l'interaction, là, elle est un petit peu dans les deux sens. Donc est-ce qu'il y a effectivement des idées autour de ça, d'une interaction pas seulement à sens unique, c'est pas seulement je commande la machine, c'est au fur et à mesure que je dialogue avec la machine, elle va changer son comportement, et donc je vais pouvoir dialoguer vraiment avec elle.
Bon, côté robotique, il y a effectivement des choses par rapport à ce que tu dis qui sont étudiées en ce moment, notamment au Japon. Déjà, il y a la détection de l'intention, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, tu vois, j'ai un robot qui passe avec un plateau, avec des verres dessus, puisqu'on est dans le bar des sciences. Et je tends ma main. Effectivement, on peut détecter le mouvement de la main, dont le robot peut venir vers nous tendre le plateau avec les verres, et donc on choisit le verre. Donc ça, c'est quelque part à sens unique, bien que on ait détecté une intention, donc il y a eu un retour. Ensuite, apprendre suite à une interaction, effectivement, il y a des travaux qui sont menés et qui sont assez complexes, puisque au-delà de l'apprentissage et du geste, on essaie ensuite d'y trouver un sens et une interprétation. Sémantique, et donc là il y a des choses qui se font, mais c'est vraiment à l'état de la recherche et surtout très expérimental. Mais il y a de l'apprentissage, et il y a de l'apprentissage sur des mouvements, c'est-à-dire un robot analyse, enfin un système de stéréovision analyse une gestuelle, et ensuite on va les enregistrer par morceaux, lever les mains, etc. Et pour ensuite essayer de les reproduire et d'interagir à bon escient en partant de ce qui a été appris, en tout cas de l'ensemble des séquences qui ont été apprises. Donc, tout le problème est de trouver une combinaison qui a un sens pour réagir. Et là, ce n'est pas toujours évident. Il y a des fois des enchaînements heureux et des fois des enchaînements malheureux. Mais effectivement, ça, je dirais que c'est la suite de l'interaction qui est un échange supérieur à deux, on va dire. Pour avoir une véritable interactivité comme on peut l'avoir ici. C'est-à-dire que ce qui a été prévu au départ ici, ça a été la première annonce de Benoît, et puis ensuite les choses se sont enchaînées les unes par rapport aux autres et se sont enrichies mutuellement, ce qui n'est pas encore au point sur les machines en tout cas. Je sais pas si tu veux.
Oui, pour continuer à répondre à monsieur, alors je ne suis ni scientifique ni artiste comme nos intervenants, mais il se trouve que je travaille dans le cadre d'un cabinet d'ingénierie d'affaires, et dans le milieu des années 80, nous avions essayé de travailler avec toute une équipe d'informaticiens sur ce qui s'appelait à l'époque les logiciels de reconnaissance vocale qui avaient commencé à être mis au point aux États-Unis sur l'anglais. Et nous avions obtenu la possibilité d'essayer de travailler sur le transfert de la reconnaissance vocale de l'anglais au français avec une capacité supplémentaire qui était de créer un logiciel qui soit auto-apprenant au fur et à mesure qu'on lui instillait les éléments linguistiques, syntaxiques, grammaticaux de la langue, avec en même temps la reconnaissance des divers accents régionaux pour permettre au logiciel d'être utilisé le plus possible. Et là, c'était à la demande des financiers qui encadraient l'opération et finançaient cette recherche. Et malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, tout simplement parce que nos interlocuteurs ont trouvé que le TRI n'était pas assez rapide. TRI, ça veut dire taux de retour sur investissement. Et ce qui fait que la reconnaissance vocale en est restée et a commencé à décliner, comme le disait notre intervenant tout à l'heure. Et c'est dommage parce que ça aurait pu éventuellement ouvrir un marché qui aurait pu concerner les gens paresseux comme moi, qui auraient préféré parler à l'ordinateur et avoir son texte directement écrit plutôt que s'épuiser sur son clavier, mais également qui aurait pu avoir des déclinaisons
pour certains types de handicaps où des personnes auraient pu effectivement travailler sur ordinateur simplement par reconnaissance vocale. Malheureusement, le pognon n'était pas là, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Voilà. Des limites aussi de la recherche.
Vous leur apprenez à parler à vos robots, vous ?
Effectivement, au Japon, l'interface vocale est utilisée. Il y a des travaux à Lyon, Peter Ford Dominé, qui est chercheur à l'INSERM, travaille là-dessus. Donc, effectivement, il y a des. Bon, la reconnaissance vocale fonctionne aujourd'hui, mais par contre, toute la difficulté, c'est la reconnaissance syntaxique, sémantique, et ensuite, à partir de là, associer des mouvements, des situations, des applications. À la phrase qui a été édictée, donc on arrive à des interfaces complètement ahurissantes. Alors je vous donne un exemple d'une manipulation, d'une expérimentation récente hein, qui date de l'année dernière. C'est donc le collègue qui dit à un robot humanoïde, qui dit à un robot humanoïde, peux-tu attraper le pied, l'objet bleu qui est sur la table. Le robot répond, est-ce que je dois attraper l'objet bleu? La réponse de la personne, c'est oui. Donc vous imaginez, si on a la même interaction sur un clavier d'ordinateur, c'est-à-dire, voulez-vous telle chose? Vous répondez oui. Donc en fait, on n'arrive pas à des interactions qui sont plus rapides, plus intéressantes qu'à partir d'une interface d'ordinateur et un clavier et une souris aujourd'hui. Et donc, il a voulu montrer que c'était possible, mais on était toujours obligé de valider l'intention, puisque le robot n'était pas sûr de l'avoir bien reconnu et nous l'a reformuler à partir de sa base de données, et on devait dire oui ou non pour que l'action soit ensuite exécutée. Et ensuite, les actions étaient forcément des actions assez limitées, c'est-à-dire il allait saisir d'abord l'objet, ensuite on lui disait de mettre l'objet à un endroit donné, il demandait si c'était bien le cas et qu'il fallait bien mettre l'objet à un endroit donné. Donc ça pouvait créer une certaine irritation chez l'utilisateur, vous pouvez bien l'imaginer. D'avoir autant d'interactions.
Ça me rappelle certains numéros de téléphone ou boîtes vocales que parfois, effectivement.
Exactement. Donc en fait, les interfaces vocales et verbales sont assez complexes. Et donc, on a des moyens aujourd'hui plus rapides d'interagir, paradoxalement.
Mais on peut pas faire de l'apprentissage à un robot. Là, je parle. Le langage, c'est symptomatique parce que les enfants, quand ils commencent à parler, ils font pas des phrases, ils comprennent pas des choses complexes. Mais ça se structure petit à petit, en fait. Est-ce qu'on peut apprendre un robot de cette manière-là, ou de toute façon, un robot, il comprendra tout de suite une phrase et du sens, ou?
Enfin, il faut imaginer que la notion d'apprentissage aujourd'hui, c'est pas. Enfin, on peut même pas imaginer. Qu'un robot aujourd'hui soit capable d'apprendre comme un enfant, c'est impossible. Oui. Ce qu'on appelle apprentissage en informatique ou en robotique, c'est apprendre certaines règles dans certaines situations et des choses extrêmement simples, enfin, de notre point de vue. Et donc, c'est pas encore aujourd'hui en l'état pour être utilisé pour des manipulations, des expérimentations complexes, en fait, et des interactions complexes, on va dire. Non, c'est assez délicat.
Oui, là pour ajouter là, sur l'apprentissage, il y a quand même une barrière énorme entre la machine biologique qui est un cerveau et un ordinateur actuellement, au niveau simplement puissance de calcul, puisque récemment il y a des chercheurs qui se sont amusés à calculer la puissance de calcul mondiale dans le temps, c'est-à-dire dans les années 70-80. À une époque, c'était dominé par exemple par les calculatrices. La puissance de calcul dans le monde était dominée par les calculatrices. Maintenant, c'est les ordinateurs et les téléphones portables. Et ils ont comparé ça en milliards d'opérations par seconde. Et on arrive actuellement à ce que la puissance de calcul de tous les ordinateurs du monde devient à peu près équivalent à un cerveau. Au niveau nombre de neurones, possibilité de faire du calcul et des opérations. Donc, un cerveau humain qui est capable d'apprendre. Un enfant qui met des années à apprendre le langage, il faut toujours relativiser la capacité de nos machines, en fait. Nos machines ont des programmes qui sont déterminés. Malgré bien qu'ils soient très complexes, il reste des programmes simples qui exécutent des ordres et qui n'ont pas forcément toutes les capacités d'adaptation d'un réseau neuronal extrêmement complexe, contenant des milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses. Donc il faut toujours relativiser ces choses-là.
Je vais apporter un complément. Il y a aussi ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que notre cerveau, les connexions de notre cerveau se recombinent régulièrement. Et ce qui fait notre différence à nous, entre nous, c'est justement notre expérience, nos vies différentes, qui font que chaque jour, à travers ces expériences-là, notre cerveau se recombine. Et du coup, ces échanges que l'on fait, chacun a une expérience différente, a une façon de voir les choses différentes, justement, à construire des machines de manière différente. Et donc là, les machines, pour l'instant, sont figées, de ce point de vue-là. La connectivité, les connexions entre la mémoire, les processeurs, etc. Tout ça s'est câblé et ça ne peut pas se reconfigurer aujourd'hui uniquement parce qu'on a perçu à l'extérieur certaines choses qui font qu'on se dirait bah, tiens, l'ordinateur, il faudrait qu'il soit reconnecté autrement pour produire des calculs de manière différente.
D'accord. Donc, peut-être pas sur des robots, mais sur au moins des logiciels ou des programmes. On n'a pas inventé quelque chose qui serait un petit peu équivalent à l'évolution biologique, en fait. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui évolue. Je crois que j'avais cru comprendre qu'il y avait des choses qui marchaient un petit peu comme ça. C'est-à-dire quelque chose qui s'évoluait et qui pouvait... Ok.
Bon, on n'a pas d'informaticien ici.
Mais non, mais ok. Peut-être Richard. C'est un informaticien. Il s'est caché, en fait, mais on l'a reconnu. Hein. C'est...
Oui, il me semble, je crois, hein, je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais qu'il y a effectivement des machines qu'on appelle reconfigurables, assez frustes, c'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple d'une machine dans laquelle il y a un circuit de multiplication qui tombe en panne, on est capable de détecter qu'il tombe en panne et reconfigurer une multiplication par une série d'additions, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, il me semble que ça existe, mais c'est vrai que ça va pas très loin, hein, je reconnais que c'est minimum.
Donc effectivement, l'interaction dans le sens je modifie mon comportement pour m'adapter
à l'environnement,
ouais. N'est que pour l'instant que de notre côté.
Oui, d'accord.
Est-ce que justement les recherches informatiques sur les neurones, enfin sur l'intégration de neurones vivants dans des machines ne sont pas, est-ce que ça n'aurait pas pour but ça ? De donner une capacité plastique aux ordinateurs en intégrant des cellules vivantes ?
Alors est-ce que dans mon iPhone, dans quelques années, il y aura des vrais neurones ?
Par exemple.
Ça j'en sais rien. Non, voilà, on sait actuellement, donc comme j'ai dit, on sait interfacer un neurone avec un transistor, avec un circuit, une électrode, mais pour l'instant ça reste au niveau de la recherche, ça reste au niveau de la performance. Je sais le faire, je sais transmettre une information, je sais lire une information. L'intérêt actuellement c'est d'aller étudier notre cerveau, donc d'aller planter des électrodes dedans pour comprendre comment il marche. Dans la compréhension du cerveau, on en est au début. Il y a énormément de choses dont on ne sait pas du tout comment ça marche. La mémoire, par exemple, la conscience, toutes les choses comme ça. Et on en est très loin. Il y a une montagne énorme entre la puissance de calcul d'un cerveau et sa complexité et un ordinateur et un processeur. Donc, est-ce que dans le futur, et on aura des choses hybrides ? Ça, j'en sais rien. Mais c'est peut-être une piste à explorer.
Je peux reposer ma question de tout à l'heure aux musiciens, puisque existe-t-il, il y en a, puisque j'ai cité une application qui est faite à l'IRCAM, des machines musicales sur lesquelles je peux interagir, mais dans laquelle la machine me répond un peu. C'est-à-dire que s'il y a deux individus différents qui font la même interaction, la machine va répondre différemment parce qu'elle aura appris quelque chose, parce qu'elle m'aura dit quelque chose.
Je vais utiliser mon joker parce que je sais pas. Probablement que à l'IRCAM, vu qu'ils sont très très en avance et qu'ils font vraiment de la recherche, il y a des outils comme ça. Après, moi, j'ai jamais croisé ça pour le moment sur scène ou dans les environs.
Si je peux me permettre. Merci. Alors, en fait, moi, ce serait une question pour Yann. J'imagine que lorsque vous avez créé cette exposition et les expositions précédentes, vous avez été contraint à certaines restrictions techniques. Et je voulais savoir ce que c'était votre but ultime. Imaginons, il n'y a aucune contrainte, et qu'est-ce que vous souhaiteriez faire pour l'utilisateur ?
Ça serait le rêve de travailler comme ça, mais non. On a toujours des contraintes, et au final, c'est souvent des contraintes qui obligent à... Moi, j'aime bien exploiter les contraintes, justement. Si on me donne, carte blanche pour imaginer quelque chose, je pense que j'aurais plus de difficultés que si on me dit, eh ben, tu peux pas faire ça. Comme en musique, on n'a pas eu de chanteur dès le départ, c'était une énorme contrainte. Il y a 15 ans, un groupe sans chanteur, c'était vraiment montré du doigt. Donc, de cette contrainte-là, on a amené l'image sur scène, le travail sur l'image. Donc du coup, bon, à partir du moment où il n'y a pas trop de contraintes, je trouve que c'est une bonne manière se remettre en question au final, pour éviter de faire ce que font les autres. Voilà. Et donc pour les mécaniques poétiques, la contrainte, c'est que je n'ai pas choisi les chercheurs qu'on m'a présentés, je n'ai pas choisi non plus leur domaine de compétences. Et au final, je suis retombé sur mes pieds.
Je vais compléter sur les contraintes parce que ça me fait penser à un point particulier. L'homme aujourd'hui, en fait, on a pu montrer que nos mouvements dans la journée, enfin tout ce que l'on peut faire, c'est à énergie minimum. Mais par contre, en fait, tout ce qui fait qu'on ne le fait pas à énergie minimum, ce sont nos contraintes. Rester debout, en équilibre, aller se nourrir, en fait, etc. Ce qui fait que si on était sans contrainte, en fait, ben, je crois qu'on passerait notre journée allongée par terre, sans bouger. Et en fait, on se rend compte que, bon, ben, c'est pas le cas, en fait, tout ce qui crée la vie, l'interaction, etc., ce sont des contraintes. Et donc, je crois que c'est, comme il l'a dit, c'est un point très important, en fait.
Oui. Pardon, excusez-moi. Il y a deux mots qui sont revenus dans la conversation, c'est machine et objet. Et donc tout à l'heure, vous avez dit que ce qui était présenté là n'était pas des machines, mais était des objets. Vous avez parlé de magie aussi par rapport à ces objets, de technologies qui étaient cachées. Donc comme si vous investissiez ces objets. Et après, vous avez parlé de machines aussi. C'est par contre ce que vous utilisez, les ordinateurs, pour la musique. Et donc, quelle est la distinction que vous faites justement entre objet et machine? Et j'aurais voulu savoir si, pour les scientifiques, il y a aussi une différence entre machine et objet.
J'ai jamais réellement défini les deux termes, je les ai utilisés parce que tout à l'heure, quand vous parliez de machine, pour moi, la machine, c'est justement tout ce qu'on ne voit pas dans ce que j'ai appelé l'objet. La machine, ça va être le cerveau, on va dire, qui gère la logique de chaque installation. Et l'objet, ça va être l'enveloppe esthétique qui, lui, gère plus la poésie dans l'esprit de la personne qui va regarder l'objet. Donc, je ne sais pas si j'emploie les bons termes, hein, je les ai employés un peu de manière instinctive, mais moi, je fais vraiment une réaction la démonstration de la machine, c'est-à-dire que, par exemple, quand on est sur scène, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour mon instrument de musique, ni pour faire de la publicité pour une marque de vêtements avec mon t-shirt, comme là, je ne suis pas là pour faire de la publicité avec l'ordinateur, la marque de l'ordinateur qu'il y a dedans, la marque des capteurs. C'est pas mon propos. C'est pour ça que je cache déjà les machines. Ça véhicule un discours que j'ai pas envie d'utiliser, qui vient parasiter le mien. Et c'est pour ça que je maquille et que ça devient plus l'objet. Voilà. Je distingue vraiment. Alors bien sûr, ça reste technologique, mais c'est pas ce que je veux défendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Pour la réponse du côté scientifique, on peut jouer sur les mots, hein, mais effectivement, l'objet de l'étude, par exemple, en robotique, c'est le robot, mais pour nous, il y a une distinction très claire entre la machine qui est le robot et en fait les objets qu'on manipule et qui sont en fait l'objectif ultime de ce pourquoi on travaille, c'est-à-dire réaliser une action avec des objets notamment. Transporter, manipuler donc des objets. Et donc là, c'est une réponse au premier degré. En fait, la distinction est extrêmement claire. De notre côté, ceci dit, ces deux entités sont l'objet de nos études, effectivement.
Ok. Oui.
Donc moi j'ai une question un peu naïve, sûrement. On parlait d'impulsion électromagnétique. Est-ce qu'un jour on pourra justement entrer en interaction avec des machines via notre pensée en fait ?
Oui, oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut le faire, mais actuellement ça nécessite qu'on vous ouvre le crâne et qu'on vous plante des choses à travers la dure mer. Donc bon, c'est pas pour l'instant génial. Il y a des choses qui se font au niveau électroencéphalogramme. Et actuellement, si on vous met un casque avec plein de petites électrodes et que vous n'avez pas trop de cheveux non plus, que ça ne gêne pas trop, un peu de gel pour que ça... on est capable de mesurer, par exemple, ça a été fait pour les fauteuils roulants, une intention, aller à gauche ou à droite, moyennant quelques secondes de calcul d'un gros ordinateur. Donc on est capable de... Après, il y a éventuellement le siège roulant peut tout seul aller voir s'il n'y a pas un obstacle, etc. Mais simplement, un casque électroencéphalogramme EEG est capable d'éventuellement décider à gauche ou à droite, mais c'est tout. Donc pour l'instant, on en est là.
En fait, je voulais savoir si en créant ces objets, vous considérez plutôt comme un géotrouve-tout, parce que c'est le spectateur en fait qui devient l'artiste en pianotant sur les objets. Et cette relation, du coup, ouais, c'est ça, c'est un... Enfin, moi, je vous considère plus comme un géotrouve-tout, du coup, qui invente des objets, et c'est le spectateur qui vient devenir l'artiste, en fait.
Je vois pas tout à fait les choses comme ça. Je dirais pas que le spectateur devient artiste parce qu'il va générer des sons ou donne plutôt des portes d'entrée. Dans des univers bien bien cadrés. Par exemple, je laisse pas la liberté au manipulateur de jouer toutes les notes souvent. Les notes sont bien choisies pour que le résultat ça dépend ce qu'on peut appeler harmonieux, mais dans notre harmonie à nous. C'est vraiment, j'appelle ça des portes d'entrée, comme quand on vient voir un concert. C'est aussi une porte d'entrée, disons qu'en 15 ans, comme on est au final un vieux groupe maintenant, on a vraiment défini un univers qui est sonore, visuel, et ces machines permettent aux spectateurs d'entrer un peu plus profondément dans cet univers. Mais il est quand même très très cadré et très... on ne met pas n'importe quel son, on ne met pas n'importe quelle harmonie, n'importe quelle image. Tout est vraiment très cadré pour bien respecter notre univers.
Ok, donc je vous propose qu'on s'arrête là. On se ménage 10 minutes, un quart d'heure pour continuer à discuter un peu de façon informelle, boire un dernier verre, etc. Mais la salle va devoir fermer dans pas trop longtemps. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je vous assure que c'est un projet qu'on a mené en partenariat avec Montpellier à 100% pour la première fois et avec le service culturel de l'Université Montpellier 2 aussi, avec Éléonore Mercier et Caroline Datt. Et la culture scientifique de l'Université Montpellier 2, je pense que c'est une expérience à renouveler. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu pour la suite. Mais les arts et les sciences ont des choses à se raconter, d'ailleurs la preuve devant vous. Je vous demande peut-être juste, Éléonore, c'est elle qui a réussi à nous les sortir des laboratoires, les chercheurs, donc c'est la rabatteuse de ce bar-là. Je pense qu'on a passé un bon moment, il y a des choses qui ont été dites, donc on peut les remercier, vous remercier, remercier tout le monde.
Me revoilà. Alors, est-ce que ça vous a plu ? Je suis content que vous ayez apprécié. Écoutez, si ça vous intéresse, les rencontres ont lieu un jeudi par mois au Baloir à Montpellier. Et vous pourrez retrouver les programmes et les archives audio sur leur site internet www.barscience.fr. Et sachez que les rencontres ont été organisées par le Presse UMSF et le Pôle Culture Scientifique de l'Université Montpellier 2, en partenariat avec l'INRA, le CNRS, l'INSERM, l'IRD, le CIRAD, et en collaboration avec la médiathèque Émile Zola, les librairies Sorams, l'Agora des Savoirs, Radio Aviva, Radio Divergence et Radio Campus Montpellier. Bon, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine fois alors. Bonne soirée.